voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit gaune de Lyon aux oripeaux d'évasion, partir, non pas pour voir de nouveaux lieux mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux, orpailleur d'horizon, y'a que des hôtels mille étoiles, pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit, qui croient sans beurre, qui français qui flâne, lisez Kerouac qui chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature et de pays en pays. Il pédale et de guerre en maladie. Il pédale, s'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 sur un croissant au beurre.
Mars 2023. Dans le cadre du festival Pili Pili, nous avons assisté à la conférence de Serge Slama sur le projet de loi qui prend le nom de Pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Et nous avons pu l'interviewer à la fin de son intervention à Villard-des-Lans. Depuis cette date, ce projet de loi a disparu du calendrier institutionnel pour réapparaître ensuite et il est à nouveau pleinement d'actualité aujourd'hui. Avant d'écouter Serge Slama, voici quelques étapes du chemin aventureux de ces projets de loi depuis le mois de février. 1er février 2023, enregistrement par le Sénat du projet de loi numéro 304. Par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, et Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion.
Affaire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres. Et beau défendre si joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y a un hommage à faire à se tomber.
10 mars 2023. Les jours avant la conférence de Serge Slama à Villard-des-Lans. Fin du dépôt des amendements des commissions au nombre de 243 qui serviront de base à la commission des lois du Sénat pour élaborer mercredi 15 mars sa propre version du projet de loi en vue de la discussion en séance publique, initialement prevue pour fin mars.
Je suis un rêveur et pourtant ami j'analyse, je suis un érudit et je vous dis, je suis serbo-croate et musulman, voilà le hic en fait en polonais, républicain et laïque, et c'est certain regret de ne pas être noir.
15 mars 2023, réunion de la commission des lois du Sénat afin d'examiner les amendements discutés, dits des commissions, en ressortira une nouvelle version du texte bien plus dure que celle présentée début février par le gouvernement.
France Inter,
26 avril 2023.
Et alors qu'Emmanuel Macron disait il y a deux jours seulement souhaiter une loi sur l'immigration d'ici à la fin de l'été, la première ministre qui détaillait sa feuille de route pour les 100 prochains jours aujourd'hui la renvoie à bien plus tard, l'automne au mieux, reconnaissant l'absence de majorité pour voter le texte.
France Culture, 10 mai 2023.
Journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement a finalement changé d'avis. Un projet de loi immigration sera bien présenté dès le mois de juillet en France. Elisabeth Borne a demandé hier soir au ministre de l'Intérieur de relancer les concertations. L'examen parlementaire devrait lui suivre à l'automne.
Populaire, elle avait fui son pays, les pogroms et la guerre et la terre des ancêtres était un vaste mouroir et ce pays d'accueil, un sombre miroir qui lui renvoyait cette image de paria, de réfugié.
Bonjour Serge Slama.
Bonjour.
Vous êtes professeur des droits à l'Université Grenoble-Alpes et affilié à l'Institut Convergence Migration. Nous vous retrouvons à Villard-des-Lans à l'occasion de la conférence que vous venez de donner à propos de la loi immigration Darmanin. Merci d'accepter de nous parler.
De rien.
On va revenir avec vous sur quelques points saillants de cette conférence et notamment sur l'association du droit du travail à la question de l'immigration dans cette loi.
Alors cette loi en fait repose sur deux piliers et un des piliers qui est la possibilité de régulariser des sans-papiers qui travaillent déjà en France, ce qu'on appelle la carte métier en tension. Alors cette carte a un certain nombre d'avantages parce qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de travailleurs sans papier qui travaillent dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le bâtiment ou ailleurs et qui ne réussissent pas à être régularisés parce que ça dépend souvent du bon vouloir de l'employeur. Donc la carte permet d'avoir des critères beaucoup plus larges de régularisation. Le problème, c'est que le statut qui est prévu par la loi n'est pas très satisfaisant parce que c'est un statut assez précaire qui ne permettrait pas d'exercer l'ensemble des droits. Et en plus, il y a le risque que les Républicains durcissent le texte, notamment au Sénat. Il est examiné actuellement au Sénat. Et donc, ce n'est pas sûr que cet aspect positif de la loi puisse être adopté par le Parlement.
Et la loi vise à réduire les temps des prises en compte de la demande d'asile.
Alors, sur le droit d'asile, c'est tout de même une bonne chose que les organismes chargés d'accorder ou pas la demande d'asile se tranchent rapidement. Aujourd'hui, on est à peu près un an, tout compris, hein, entre l'office qui accorde ou pas la protection et la juridiction qui se prononce ensuite. Là, la loi va un peu trop loin, c'est-à-dire pour pouvoir tordre les délais, accélérer les délais, on va supprimer beaucoup de garanties qui sont vraiment importantes. Notamment, il y a un risque de juger en juge unique, alors qu'actuellement, il y a une formation collégiale qui juge les décisions. Et donc, ça me paraît important de ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire, un demandeur d'asile, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de se poser, qui a vécu des traumatismes, qui a traversé la Méditerranée, qui a connu des conditions de vie très dures, parfois en Italie ou en Libye ou ailleurs. Et donc, il faut lui laisser le temps de se poser, de rassembler les éléments de son récit et de pouvoir se poser pour pouvoir faire une demande d'asile qui est mieux construite et qui donnerait plus de chances. Donc voilà, je pense qu'il faut donner un peu de temps au temps en matière d'asile. Et ça ne sert à rien de précipiter les choses parce qu'on risque d'aboutir à renvoyer des gens qui sont réellement des réfugiés et donc les envoyer peut-être vers la mort ou vers un traitement inhumain et dégradant.
Et il y a un risque aussi de multiplier les obligations de quitter les territoires.
Oui, effectivement, aujourd'hui, le dispositif d'asile, et ça risque de s'accroître avec la loi Darmanin, c'est un système de production d'irréguliers en réalité. Il y a à peu près 130 000 demandes d'asile par an, il y a 100 000 déboutés du droit d'asile. La quasi-totalité font l'objet d'obligations de quitter le territoire français. Et finalement, il y en a assez peu qui sont exécutés. Il y en aurait 10 ou 20 000 qui sont exécutés réellement. Et donc la plupart des déboutés du droit d'asile restent en réalité en France. Donc on produit beaucoup d'irrégularités. Alors que quand on examine les cas de ces personnes, la plupart ont des motifs légitimes de rester. Et puis, contracter les délais, il y a des erreurs de tir, très clairement. Le but de la carte métier en tension, ça serait vraiment de permettre plus facilement des régularisations. Mais le reste de la loi, c'est une loi assez dure sur l'immigration qui durcit beaucoup, notamment sur la question du droit d'asile ou la question de l'éloignement des sans-papiers. Cette loi prolonge largement les lois précédentes. Hein, depuis une trentaine d'années, on a des lois tous les 2-3 ans en matière d'asile et d'immigration. Et l'idée, elle est toujours un peu la même, c'est-à-dire de durcir les dispositifs pour soi-disant éloigner plus d'étrangers ou accélérer les procédures d'asile ou inciter plus à l'intégration. En pratique, quand on fait des bilans de ces lois, les dispositifs adoptés ne fonctionnent pas très bien parce qu'on n'inverse pas la perspective. Je pense qu'il faudrait vraiment recentrer l'accueil des étrangers sur les étrangers, sur un service public de l'accueil des étrangers notamment, avec l'idée de pouvoir examiner, on parle d'examen à 360 degrés, c'est-à-dire d'examiner quand un étranger arrive, si vraiment il y a un motif pour lequel il est légitime de rester en France et vraiment être dans une logique d'accueillir, de développer ce principe d'humanité ou de fraternité.
Quel est l'imaginaire qu'il y a derrière cette loi ?
Depuis une trentaine d'années, sous l'influence du Rassemblement national, l'État a un rapport pathologique aux étrangers, vraiment un rapport de rejet, de méfiance, de défiance. Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, a parlé de bons et méchants. Et en fait, ça, c'est une dialectique assez fréquente en droit des étrangers depuis 1938, l'avant-seconde guerre mondiale, où on oppose un soi-disant bon immigré qui travaille et qu'on pourrait intégrer au méchant immigré qui serait quasiment un délinquant. En réalité, ça ne correspond pas à grand-chose, mais cette loi repose beaucoup sur cet imaginaire-là, avec vraiment une opposition, par exemple, entre les personnes qui subissent la double peine, qui sont censées être des délinquants étrangers, et puis les bons immigrés qu'il faudrait régulariser. La réalité du droit d'immigration est vraiment très, très différente, et je crois que le territoire ici le montre. On est un territoire qui a une coutume d'accueil, de résistance. Le Vercors, c'est vraiment un endroit où la résistance a été assez importante, et on a développé des modèles alternatifs. Et je pense qu'il faut changer l'appréhension du droit des étrangers, reposer beaucoup sur l'idée d'accueil des migrants, et on sait qu'il y a des villes et des territoires qui sont accueillants en matière de migration. On peut inverser la donne. Puis on est un certain nombre de chercheurs à avoir proposé une convention citoyenne sur les migrations. Vous savez, comme on a fait une convention citoyenne sur la fin de vie ou sur le climat, L'idée que si vraiment on réunissait des citoyens et qu'on leur expliquait la réalité des politiques d'immigration, la réalité de ce que c'est l'immigration en France et des situations que vivent les migrants, on aboutirait peut-être à trouver des solutions très concrètes, très pratiques, qui permettent de déminer le terrain et de traiter le problème, non pas de manière pathologique, mais de manière, la France est une terre d'accueil, une terre d'immigration depuis longtemps. Il s'agit de trouver des règles humaines et des règles rationnelles dans l'accueil des migrants et pas de quelque chose qui repose sur un truc un peu pathologique, quoi. On sait que le Vercors a une histoire très forte d'accueil et aussi de résistance. Il y a une République du Vercors qui a été proclamée avant le rétablissement de la République française en 1944. Et donc, parler d'immigration dans le Vercors, c'est pas neutre. C'est-à-dire que c'est un territoire qui peut réinventer des solutions et résister à une forme d'oppression, une forme de rapport de l'État à l'étranger, à l'autre, qui n'est pas sain, en fait. Donc peut-être qu'ici, on peut trouver des solutions pour faire ce que la France est, hein, c'est-à-dire une république hospitalière.
L'afflux d'aujourd'hui les montre parce que la salle de la Verrière qui a accueilli votre conférence était pleine. Mais quelle impression a fait sur vous le fait qu'à Lens-Saint-Vercors, ils aient refusé de recevoir votre intervention ?
Oui, en fait, je pense que là, il y a une confusion entre l'universitaire et le fait que par ailleurs, je peux être un militant, mais j'interviens publiquement comme universitaire. Je suis professeur de droit à la faculté de droit de Grenoble, rien de plus classique, j'ai pas un discours. Mais je pense que certains maires peuvent craindre qu'il y ait un discours militant qui soit tenu. Ils craignent le discours militant, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Il aurait suffi qu'ils m'appellent ou qu'on discute 3 minutes pour qu'ils s'aperçoivent qu'il n'y avait pas de peur à avoir. Vous voyez, j'ai pas soulevé les foules. Voilà, mais en revanche, l'accueil est très bon, c'est-à-dire ça fait plusieurs interventions que je fais dans la région. J'en ai fait une au muséum de Grenoble qui était rempli. Je pense que les gens sont très intéressés par la thématique et sont en attente d'avoir un discours différent en matière d'immigration. Donc je pense que c'est important quand on est universitaire d'être aussi un citoyen et de mettre au bénéfice de tous, des citoyens, sa propre expertise en la matière pour essayer de déminer le terrain et que les gens se fassent une conscience du citoyen sur ces questions-là. Donc vraiment, ce type de conférence paraît essentiel dans l'exercice de ma profession.
Vous parlez des discours différents, donc différents par rapport à ceux de politique, mais est-ce qu'il y a là une critique aussi du système média qui notamment relaie un certain type de discours sur l'immigration ?
C'est clair qu'il est difficile dans le système médiatique traditionnel de tenir ces discours-là. De toute façon, on est moins invité qu'ailleurs et c'est un discours qui clash pas, qui repose pas sur le problème, sur la peur, donc évidemment, les médias les plus classiques passent assez peu ces discours. C'est dommage parce que si les médias faisaient vraiment leur travail, on entendrait beaucoup plus souvent François Gémen, François Héran ou d'autres spécialistes de l'immigration dire la réalité, parce qu'on est des scientifiques, on connaît aussi, on a étudié ces domaines-là. Moi, je pense être capable de dire quel système juridique fonctionne en matière d'immigration ou pas. Et quand je vais voir le politique, quand je suis auditionné au Parlement sur la question, je vois que le résultat est très décevant, puisqu'ils sont incapables de se saisir de ça. C'est-à-dire que l'expertise scientifique ne se traduit pas par des politiques censées en matière d'immigration. Bonsoir, à bientôt.